Le rendez-vous scientifique.
Bonjour, c'est Patrick pour l'interview scientifique. Aujourd'hui, nous allons parler du fabuleux monde quantique.
Depuis quand parle-t-on de physique quantique ?
La physique quantique est initiée vers 1900 pour expliquer le comportement de l'atome. Cette théorie va apporter des réponses à certaines incohérences des modèles de l'atome de cette époque. En guise d'introduction, on peut dire que la physique quantique a un pouvoir prédictif et explicatif le plus abouti du monde et à toutes les échelles. Par contre, ce qui interpelle, c'est que cette théorie est contre-intuitive et parfois même très étrange. De nombreux appareils et systèmes de notre quotidien utilisent et mettent à profit des propriétés quantiques. Citons par exemple les ordinateurs, les lasers, la supraconductivité, les téléphones cellulaires, l'électronique en général, l'imagerie et bien d'autres encore.
Quel était le modèle de l'atome avant l'avènement de la physique quantique ?
En 1911, Ernest Rutherford, physicien de Nouvelle-Zélande, propose un modèle planétaire de l'atome. L'atome a une structure principalement constituée d'espaces vides. L'atome est composé d'un noyau porteur de charges positives. Les électrons gravitent autour du noyau. Leur charge négative équilibre la charge positive du noyau, ce qui fait que l'atome est électriquement neutre. Ernest Rutherford recevra le prix Nobel de chimie en 1908 pour ses travaux sur la désintégration des éléments et la chimie des substances radioactives.
Pourquoi ce modèle pose-t-il un problème ?
Prenons comme exemple l'atome le plus simple, celui de l'hydrogène. Le noyau est composé d'un proton autour duquel gravite un électron. Selon la physique classique, l'électron devrait perdre de l'énergie et s'effondrer sur le noyau. Par analogie, considérons la bille de la roulette comme étant l'électron. Le proton se trouve au centre. La bille tourne et finit par s'effondrer au centre. Heureusement pour l'atome, il n'en est rien. Si c'était le cas, nous ne pourrions pas exister. La mécanique quantique va expliquer pourquoi l'électron ne peut pas s'effondrer sur le noyau. On peut citer une autre énigme, celle des raies spectrales de l'hydrogène. Par exemple, si l'on applique une tension électrique à du gaz hydrogène, les atomes d'hydrogène vont être excités, c'est-à-dire que les électrons montent à des niveaux d'énergie plus élevés. Quand les électrons reviennent à leur niveau d'origine, ils émettent de la lumière. Si l'on décompose cette lumière émise avec un prisme, l'hydrogène donne mystérieusement quatre raies. Deux raies violettes, une raie turquoise et une raie rouge.
Donc, si je comprends bien, il va falloir un modèle amélioré de l'atome.
Oui, tout à fait. Et c'est en 1913 que le physicien danois Niels Bohr propose une amélioration du modèle de Rutherford. Ce modèle va résoudre simplement les problèmes du modèle de Rutherford. Dans le modèle de Bohr, les orbites des électrons sont quantifiées. Seules certaines orbites sont permises. Chaque orbite correspond à un niveau d'énergie bien précis. Tant que l'électron reste sur son orbite, il ne rayonne pas d'énergie, contrairement à ce que prédit la physique classique. L'atome est plein de vide. Par exemple, si le noyau de l'atome était une balle de ping-pong de 1 cm de rayon, le premier électron se trouverait à une distance de 1 km.
Donc, mais si la matière est vide, pourquoi ne passe-t-on pas au travers, n'est-ce pas une contradiction ?
En effet, la physique quantique permet de lever cette contradiction. Les couches des atomes sont toujours complètes. Seule la dernière couche peut être incomplète. Il est donc impossible de rajouter des électrons à une couche complète. C'est le principe d'exclusion de Pauli. La force de répulsion électromagnétique est dans ce cas considérable. Ce principe porte le nom du physicien autrichien-américain-suisse Wolfgang Ernst Pauli et s'énonce de la façon suivante. L'électron occupe un espace minimum vital et il ne permettra à aucun autre électron de pénétrer dans son espace quantique. Donc, on ne peut pas passer simplement au travers sans casser l'objet. Par exemple, quand on tape sur une table, la force de répulsion liée au principe de Pauli est énorme et la main ne passe pas au travers de la table. Wolfgang Ernst Pauli recevra le prix Nobel de physique en 1945 pour la découverte de son principe.
Les couches de l'atome ont donc un nombre limité d'électrons.
Oui, et pour repérer les couches de l'atome, les physiciens leur ont donné des lettres K pour celle la plus proche du noyau, puis L, M, etc. La couche K ne peut avoir que 2 électrons au plus. La couche L, 8 électrons. La couche M, 18 électrons au maximum, etc. Seule la dernière couche, la plus externe, peut être incomplète. C'est le nombre d'électrons de la dernière couche qui définit les caractéristiques chimiques de l'élément. On nomme cette couche la couche de valence et les électrons de cette couche sont les électrons de valence.
Quel est donc ce modèle de l'atome ?
Le modèle quantique de l'atome est le plus réaliste. Pour faire simple, on considère que les électrons sont en agitation désordonnée. On ne peut pas définir une trajectoire particulière pour un électron. On peut juste délimiter la région où on a le plus de chances de les trouver. Les électrons ne tournent plus sur des orbites, mais gravitent dans des zones particulières selon leur niveau d'énergie.
Au début de cette interview, on a dit que la physique quantique a été initiée vers 1900. Qu'en est-il exactement ?
En effet, c'est exactement en 1926 que les scientifiques considèrent que les électrons ne peuvent pas être localisés avec précision. On définit seulement des orbitales. Ce sont des régions particulières où on a le plus de chances de les trouver, c'est-à-dire avoir une grande probabilité de les trouver. Ceci n'était pas du goût d'Albert Einstein, qu'il exprima par cette phrase célèbre « Dieu ne joue pas au dé ». C'est le physicien autrichien Erwin Schrödinger qui va permettre une avancée importante en proposant une nouvelle théorie, la dualité onde-particule. Erwin Schrödinger recevra le prix Nobel de physique en 1933 pour la formulation de son équation.
Qu'est-ce que la dualité onde-particule ?
Pour bien comprendre ce phénomène, il faut revenir sur le concept de lumière. Et qu'est-ce que la lumière ? On va commencer par un peu d'histoire. De tout temps, les savants se sont intéressés à la lumière. Au fil du temps, en fonction des connaissances, 5 modèles vont être proposés. Un modèle géométrique, à l'Antiquité et au Moyen-Âge. Un modèle ondulatoire, au XVIIe et au XIXe siècle. Puis, un modèle électromagnétique, au XIXe siècle. Un modèle corpusculaire est proposé au XVIIIe et au XXe siècle. Puis, ce sera la dualité onde-matière au XXe siècle.
Pour bien comprendre cette évolution, peut-on revenir au premier temps ?
Oui, Euclide, mathématicien grec actif vers 300 avant Jésus-Christ, propose la notion de rayon lumineux. Alhazen, physicien et mathématicien arabe du Moyen-Âge, considère que la lumière a une origine extérieure à l'œil. Son travail se concentre sur la réfraction de la lumière.
Et quand commence-t-on à parler du modèle ondulatoire pour la lumière ?
En 1690, le mathématicien et astronome néerlandais Christian Huygens propose une théorie ondulatoire de la lumière compatible avec l'optique géométrique. La lumière est alors considérée comme une onde. La vitesse de lumière dépend du matériau qu'elle traverse. Elle va plus lentement dans les matériaux comme l'eau ou encore le verre que dans l'air. Cette théorie sera validée par le physicien et mathématicien anglais Thomas Young. En 1801, Young réalise une fameuse expérience qui porte son nom, prouvant la nature ondulatoire de la lumière. Le principe de l'expérience est le suivant. On envoie une lumière monochromatique, c'est-à-dire une seule couleur, sur une plaque percée de deux fentes, très fines et proches. Sur un écran placé derrière la plaque, on observe une série de franges claires et sombres alternées. Si la lumière n'était pas ondulatoire, on verrait simplement deux taches lumineuses. Le phénomène observé s'explique facilement par les interférences entre deux ondes. Chaque fente agit comme une source d'ondes. Les ondes issues des deux fentes se superposent. Il y a deux cas à considérer pour expliquer les franges claires et sombres. Les interférences constructives, les ondes en phase s'additionnent, ce qui donne les franges claires. Les interférences destructives, les ondes en opposition se soustraient, ce qui donne, dans ce cas, les franges sombres.
On parle également du modèle électromagnétique de la lumière. En quoi cela consiste ?
En 1864, le mathématicien et physicien écossais James Clerk Maxwell montre que la lumière peut être considérée comme une onde électromagnétique. Pour Maxwell, la lumière et le magnétisme sont deux phénomènes de même nature. La lumière est une perturbation électromagnétique se propageant dans l'espace selon les lois de l'électromagnétisme.
Le quatrième modèle proposé pour la lumière est le modèle corpusculaire. Qui sont ses partisans ?
Les partisans du modèle corpusculaire pour la lumière sont des scientifiques de renom. En 1704, le mathématicien et philosophe Isaac Newton considère que la lumière est composée de corpuscules très petits et que la matière est composée de plus gros corpuscules. Le physicien allemand Max Planck, ainsi que le physicien allemand apatride, autrichien, suisse, américain Albert Einstein, valident ce modèle corpusculaire. Max Planck recevra le prix Nobel de physique en 1918 et Albert Einstein sera récompensé du prix Nobel de physique en 1921.
Bon, ok, on a vu les quatre modèles, mais lequel de ces quatre est le bon modèle ?
En effet, il y a beaucoup de modèles. C'est en 1924 que le mathématicien et physicien français Louis de Broglie met tout le monde d'accord. Les atomes et les photons sont à la fois des particules et des ondes de matière. C'est ce que l'on appelle la dualité onde-corpuscule. Louis-Victor de Broglie recevra le prix Nobel de physique en 1929 pour ses travaux.
On a parlé des fentes de Young pour la lumière, mais qu'en est-il pour les particules ?
Oui, en effet, refaisons l'expérience de Young avec des électrons. Dans ce cas, on touche un point fondamental de la mécanique quantique. Chaque électron envoyé passe par les deux fentes à la fois, ce qui semble incroyable. Ce phénomène implique le principe de superposition. C'est-à-dire qu'il y a superposition de l'état de l'électron passant par la première fente avec l'état de l'électron passant par la seconde fente. Ce principe de superposition s'applique également aux photons, atomes ou encore grosses molécules. Si l'on pense particules, on s'attend à voir deux bandes comme des billes passant par deux trous. Mais on observe une figure d'interférence avec alternance de bandes claires et de bandes sombres, comme pour une onde. Si l'on place un détecteur derrière les fentes pour déterminer par quelle fente passe l'électron, alors les interférences disparaissent et l'on retrouve un comportement de particule. Un autre fait incroyable et très important est que la simple observation modifie le comportement des électrons. C'est un phénomène important de la mécanique quantique lié à la dualité onde-particule. L'électron est à la fois une onde et une particule, et son comportement dépend de la mesure ou de l'observation. Cette contradiction met en avant ce qu'on appelle la superposition d'états. L'électron est à la fois une onde et une particule. Une expérience critique de pensée célèbre, le chat de Schrödinger, a été proposée en 1935 par le physicien Erwin Schrödinger pour montrer qu'appliquer les règles quantiques aux objets du quotidien mène à des situations absurdes.
Cette expérience de pensée du chat de Schrödinger, peut-on en savoir un peu plus ?
Oui, l'idée de base est la suivante. On imagine un chat enfermé dans une boîte contenant une puissante source radioactive. Un détecteur et un mécanisme libèrent du poison si une désintégration est détectée. Je rassure tous ceux qui nous écoutent, ce n'est qu'une expérience de pensée qui ne sera jamais réalisée. La désintégration est un phénomène quantique complètement aléatoire. On ne sait donc pas, à l'avance, quand elle se produit. Si l'on se place du point de vue de la mécanique quantique, la particule émise lors de la désintégration est dans une superposition d'états, c'est-à-dire désintégrée et non désintégrée. Donc, logiquement, tout le système est également dans un état de superposition. On peut en déduire, dans ce cas, que le chat est dans une superposition d'états. Il est à la fois mort et vivant. Lorsque l'on ouvre la boîte, l'observation fait écrouler la superposition et le chat est alors soit vivant, soit mort. Ce n'est pas une expérience réelle, vous l'avez bien compris, mais une critique qui met en avant les limites de l'interprétation en mécanique quantique. Elle pose la question fondamentale suivante, qu'est-ce qu'une mesure ? Et où se situe la limite entre la physique classique et quantique ? Une autre illustration proposée par le scientifique américain Douglas Hofstadter est celle de l'ambigramme. C'est une forme artistique de typographie où un mot ou une phrase peut être lu de plusieurs façons. Il y a une superposition de deux mots et c'est la lecture qui va choisir l'un des deux mots. Mais ce qui a relancé la mécanique quantique est ce qu'on appelle la catastrophe ultraviolette.
Qu'est-ce donc que la catastrophe ultraviolette ?
Pour bien comprendre ce phénomène, regardons par exemple la flamme d'un chalumeau. L'énergie dégagée ou encore la température sera plus ou moins importante. Les artisans verriers évaluent la température de la flamme en fonction de sa couleur. La flamme peut être jaune, orangée ou encore dans les bleus, de la plus petite température à la plus haute. En d'autres termes, plus la longueur d'onde est petite et plus l'énergie est importante. Pour étudier au mieux le rayonnement d'un corps chauffé, les physiciens entre 1862 et 1900 utilisent le concept de rayonnement du corps noir. Le corps noir désigne l'objet idéal qui absorbe tout le rayonnement qu'il reçoit sans rien réfléchir ni transmettre. Le corps noir émet un rayonnement qui dépend uniquement de sa température. Le corps noir peut être matérialisé par une boîte hermétique, toute noire, munie d'un tout petit orifice pour permettre les mesures internes. C'est le physicien allemand Gustav Robert Kirchhoff qui, en 1862, propose le nom de corps noir pour ce concept. Les lois de Vienne et de Stefan Boltzmann énoncent que la longueur d'onde matérialisée par la couleur de la lumière, la plus puissante émise par un corps noir, dépend de sa température. Une petite longueur d'onde pour les grandes températures. Pour en revenir à la catastrophe ultraviolette, Kirchhoff mesure le spectre de la lumière émise à différentes températures. La théorie physique classique prévoit que pour des longueurs d'onde correspondant à l'ultraviolet, la température devrait être infinie, ce qui est complètement contraire à l'expérience. On mesure bien une température finie. Les physiciens parlent alors de catastrophe ultraviolette. La théorie classique n'est pas validée. En 1900, Max Planck reçoit le physicien allemand Heinrich Rubens, qui lui fait part de la problématique du corps noir. Max Planck invente rapidement une formule en parfait accord avec l'expérience. Mais sa découverte va à l'encontre de ses convictions les plus profondes. Pour être en accord avec l'expérience, Planck postule que la lumière émise par le corps noir n'est pas continue, mais constituée de petits paquets d'énergie espacés. Ce sont les quantas. Max Planck essaiera plus tard de justifier sa formule, mais sans succès. C'est en 1905 qu'Albert Einstein explique cette théorie par la relativité restreinte et la théorie des quantas. La lumière est à la fois une onde et un ensemble de photons. Ce sont bien les prémices de la physique quantique. Mais deux clans de physiciens vont s'affronter.
Quels sont ces deux clans ?
Les deux clans vont s'affronter à la conférence de Solvay à Bruxelles, à l'initiative de l'industriel en chimie Ernest Solvay. Pas moins de 29 personnalités, dont 17 prix Nobel, vont débattre en octobre 1927 sur le thème électrons et photons. Le premier clan regroupe, pour les plus actifs, Einstein, Schrödinger, Planck et De Broglie. Le second groupe regroupe les physiciens de l'école dite de Copenhague, avec Bohr, Born, Heisenberg, Pauli et Dirac. Bien que le premier clan ait fortement contribué à la physique quantique, ces physiciens ne supportent pas l'idée de son non-déterminisme. C'est en 1927 que le physicien allemand Werner Heisenberg énonce son principe d'incertitude ou d'indétermination. On peut le résumer de la façon suivante. On ne peut pas connaître avec une grande précision à la fois la position et la vitesse d'une particule. Si l'on mesure avec précision la position d'une particule, on ne pourra pas en même temps mesurer avec précision sa vitesse, et réciproquement. Tout dans l'univers se comporte comme une onde et une particule en même temps. Werner Heisenberg recevra le prix Nobel de physique en 1932 pour ses travaux. Deux autres phénomènes incroyables et fondamentaux de la mécanique quantique sont la superposition des états et l'intrication quantique.
L'intrication quantique et la superposition semblent surréalistes.
L'intrication quantique est un phénomène fondamental de la physique quantique, où deux particules deviennent liées de manière telle que leurs propriétés sont corrélées, instantanément, quelle que soit la distance qui les sépare. Quand deux particules sont intriquées, elles forment un seul et même système. Et mesurer l'une donne immédiatement une information sur l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Pour illustrer ce phénomène, nous allons nous pencher sur une caractéristique de l'électron. L'électron possède une charge négative et réagit comme étant un petit aimant. Tout se passe comme si l'électron tournait sur lui-même. On dit que l'électron a un spin, mot anglais signifiant « tourner ». Même si l'électron ne tourne pas vraiment sur lui-même, il se comporte comme si. En mécanique quantique, le spin de l'électron ne peut prendre que deux valeurs, que l'on nommera, pour simplifier, état plus et état moins, ainsi que les superpositions de ces deux états. Dans un champ magnétique, les états superposés seront pour 50% déviés vers le haut et 50% seront déviés vers le bas. Mais comme on l'a vu, Einstein, qui n'est pas un fanatique de la mécanique quantique, n'est pas du tout d'accord avec cette idée.
Et que pense Einstein de cette superposition ?
Einstein pense qu'il n'y a pas de superposition d'états, mais que dès le départ, il y a 50% des électrons qui sont dans l'état plus et 50% dans l'état moins. Et donc, il n'y a pas de superposition d'état. Mais si l'on reste dans le domaine de la mécanique quantique, il y a le cas particulièrement intéressant de deux électrons. Pour chaque électron, il y a deux spins possibles. Et pour deux électrons, il y a donc quatre possibilités. En mécanique quantique, il y a une superposition de ces quatre états. Mais il y a une superposition particulière qui est dite intriquée.
Quelle est cette situation particulière dite intriquée ?
Considérons deux électrons créés en même temps. chaque électron peut être dans l'un des deux états, soit plus, soit moins. Mais si l'on mesure le spin du premier électron dans l'état plus, alors le second sera obligatoirement dans l'état moins, et réciproquement. Les deux électrons ne peuvent pas être dans le même état d'après le principe d'exclusion de Pauli. Et ce qui est incroyable, c'est que cela reste vrai même si l'on éloigne considérablement les deux électrons. Cela n'est toujours pas du goût d'Einstein, qui va proposer une expérience de pensée dans le but de casser cette proposition quantique. C'est le fameux paradoxe EPR.
Quel est donc ce paradoxe EPR et que veut dire EPR ?
En 1935, Einstein, Podolsky et Rosen publient un article scientifique énonçant un paradoxe nommé EPR, acronyme reprenant les initiales des trois physiciens. Si deux électrons sont dans un état intriqué, mesurons le spin du premier, puis du second. Rappelons qu'en mécanique quantique, tant que la mesure n'est pas faite, le résultat est indéterminé. Pour que la mesure du second spin puisse être réalisée, il faut que quelque chose se transmette entre les deux électrons. Einstein, Podolsky et Rosen pensent que si l'on éloigne suffisamment les deux électrons, la transmission devrait aller plus vite que la lumière. Et comme on ne peut pas aller plus vite que la lumière, il y a forcément un problème. C'est le paradoxe EPR. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut expliquer ce qu'est une variable cachée.
Qu'est-ce qu'une variable cachée ?
Une variable cachée est une variable qui influence un résultat, mais on ne la voit pas. Prenons un exemple. Quand on lance un dé non pipé, le résultat n'est pas connu à l'avance. Pour un dé, la probabilité de tirer un chiffre particulier est d'une chance sur 6. Le résultat est a priori complètement aléatoire. Mais on peut imaginer que si l'on connaît le poids exact du dé, la force et la direction du lancer, l'état exact de la surface de réception, alors on pourrait prédire avec certitude le chiffre qui sortirait. Le résultat ne serait plus lié au hasard. Le lancer de dé, qui a priori est aléatoire, deviendrait déterministe. Toutes ces données qui font que le dé donne un certain chiffre sont un exemple de variables cachées qui influent le résultat.
Et en quantique, comment interviennent les variables cachées ?
D'après Einstein, s'il y a une influence d'une particule sur l'autre, c'est qu'il y a des variables cachées qui influenceraient le résultat. Et s'il y a des variables cachées, la mécanique quantique n'explique pas tout et elle n'est donc pas complète. Il faut attendre 1960 pour que le mathématicien irlandais John Stuart Bell propose un moyen de trancher le débat par l'expérience. Ce moyen est connu comme étant les inégalités de Bell.
Donc il y a un doute, comme le suggère Einstein. Le doute sera-t-il levé ?
Les physiciens vont tenter de réaliser cette expérience, non pas avec des électrons, mais avec des photons. Et dans ce cas, on va mesurer la polarisation des photons, et non pas le spin des électrons. L'expérience est assez compliquée d'un point de vue instrumental. Elle a été cependant réalisée pour la première fois en 1982, à Orsay, par le français Alain Aspect, et confirme qu'il n'y a pas de variable cachée. L'expérience confirme la théorie quantique, quelle que soit la distance. La plus grande distance testée est d'environ 1200 km. Cette expérience a été effectuée par une équipe chinoise entre un satellite et une station terrestre. Et Einstein avait tort sur ce point. Alain Aspect a reçu le prix Nobel de physique en 2022 pour ses travaux.
Mais comment ces deux objets communiquent-ils avec de telles distances ? Cela semble incroyable.
Oui, c'est incroyable. C'est du fait que ces particules ont une onde commune. Les deux particules forment un système global, même si les particules sont très éloignées. La corrélation des deux particules est créée initialement. Cette corrélation est instantanée. Rien ne se transfère entre les deux objets. Aucune énergie, aucune information. On ne va donc pas plus vite que la vitesse de la lumière.
La mécanique quantique produit des effets déroutants. Est-ce que vous pouvez les résumer ?
Oui, on en a vu plusieurs. La superposition suppose qu'un système peut être dans plusieurs états simultanément. C'est la mesure qui déterminera un état. On a vu que le chat de Schrödinger est à la fois vivant et mort, tant que l'on n'ouvre pas la boîte. La superposition ouvre la porte à d'autres théories vertigineuses, comme les univers multiples. Cette idée a été proposée par le physicien américain Hugh Everest dans les années 1950. Chaque univers se divise en de multiples versions, chacune réalisant une possibilité différente. Il existerait une version différente de chacun d'entre nous dans un autre univers. Malheureusement, ces univers sont totalement inaccessibles à cause de ce qu'on appelle la décohérence. Les branches de ces univers ne peuvent pas interagir entre elles, donc impossible de voyager entre elles. Pour l'instant, il est impossible de savoir si cela est vrai. On a vu que l'intrication assure une connexion instantanée à distance entre deux particules. Avec le principe d'incertitude de Heisenberg, on ne peut pas connaître précisément certaines paires de propriétés comme la position et la vitesse en même temps. Ceci n'est pas un problème d'instrument, c'est simplement une limite fondamentale de la nature. On a vu également que l'observation, donc la mesure, modifie l'état d'un système. Dans l'expérience des Van de Jung, une particule se comporte comme une onde si on ne l'observe pas, et comme une particule si on la mesure. Un autre effet, dont on n'a pas encore parlé, est l'effet tunnel. Les particules peuvent, parfois, traverser des barrières qu'elles ne devraient pas franchir selon la physique classique. Ce phénomène est mis à profit dans les systèmes électroniques avec des transistors, de même que pour tous les lasers et également dans le microscope dit à effet tunnel. La décohérence quantique ne se voit pas au quotidien du fait des interactions avec l'environnement. En résumé, la mécanique quantique nous dit que le monde n'est pas déterministe, pas local, et parfois même pas défini avant qu'on le mesure.
Et y a-t-il d'autres applications en étude ?
Je vais en citer deux. Le premier est l'ordinateur quantique, qui code pour chaque état, les bits 0, 1, et la superposition de ces deux états. Ces états s'appellent les qubits. Les qubits permettent de décupler les capacités de calcul traditionnelles. Le codage est réalisé en codant, par exemple, le fameux spin de l'électron. Cette application utilise donc la superposition quantique. La seconde application que l'on peut citer est la cryptographie quantique, qui permet d'envoyer des messages cryptés avec une sécurité absolue. Toute intrusion est immédiatement repérée, car l'observation modifie la mesure. Cette application utilise dans ce cas l'intrication quantique.